Il est pile 22h et le journal vous est présenté par Laura Dulieu. Bonsoir Laura.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. La voie est libre pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Après l'Agence européenne des médicaments, c'est la Commission européenne qui donne son feu vert. Tandis qu'au Royaume-Uni, une variante du coronavirus fait exploser le nombre de cas. Les pays européens suspendent les uns après les autres leur liaison avec le pays. Avec nous pour en parler, Fabienne Keller, députée européenne et l'invitée de ce journal. Et toujours au chapitre du Covid-19, la France persiste et signe plus de souplesse qu'ailleurs pour Noël, tandis que nos voisins européens serrent la vis. Dans le reste de l'actualité, ce canular téléphonique qui embarrasse la Russie, l'opposant russe Alexei Navalny a piégé un membre du FSB qui lui a raconté les détails de son empoisonnement cet été. Enfin, nous irons au Liban où des réfugiés syriens chrétiens fêtent Noël comme ils le peuvent, loin de chez eux. Les campagnes de vaccination commencent un peu partout dans le monde. Le futur président américain Joe Biden vient de se faire vacciner en direct devant les caméras de télévision. Il a reçu la première dose du vaccin Pfizer dans un hôpital du Delaware. Le vaccin Pfizer qui reçoit un feu vert également de l'Union européenne. Un feu vert arrivé plus tôt que prévu. Après l'Agence européenne des médicaments, cet après-midi, la Commission européenne lui a emboîté le pas. Écoutez sa présidente Ursula von der Leyen, c'était tout à l'heure à Bruxelles.
Sur la base de l'évaluation scientifique de l'Agence européenne du médicament, nous avons autorisé le vaccin BioNTech Pfizer sur le marché européen. Les premiers lots seront expédiés depuis l'usine Pfizer, basée en Belgique, dans les prochains jours. Depuis le début de cette épidémie, j'ai toujours dit, nous sommes ensemble. Alors la vaccination doit commencer au même moment, dans tous les pays, pendant la campagne européenne des 27, 28 et 29 décembre. C'est une excellente façon de finir cette année difficile et de tourner la page du Covid-19.
Et d'ici septembre 2021, ce sont 200 millions de doses qui seront distribuées. D'autres vaccins pourraient être approuvés d'ici là, à commencer par le vaccin Moderna. L'Agence européenne du médicament rendra son avis le 6 janvier. Et selon les experts européens, ces vaccins restent efficaces, y compris contre la nouvelle forme de coronavirus plus contagieuse détectée au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui s'isole à nouveau après l'explosion des cas dans le pays. Le Premier ministre Boris Johnson a reconfiné ce week-end pas moins de 16 millions d'habitants à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Une quarantaine de pays, dont la France, a suspendu ses liaisons avec le Royaume-Uni. Aujourd'hui, plusieurs pays rejoignent cette liste. Le Portugal, l'Espagne, la Russie, l'Inde, la Norvège ou encore Hong Kong. Au niveau européen, c'est d'abord chaque État qui a pris des mesures en urgence. Avec nous, pour en parler, invitée de ce journal, Fabienne Keller, députée européenne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes députée européenne du groupe centriste Renew Europe. Plusieurs pays européens ont donc pris séparément la décision de suspendre leur liaison avec le Royaume-Uni. On a l'impression que l'Union européenne avance un peu en ordre dispersé.
Alors, il a fallu prendre des mesures de précaution et chaque État membre qui est responsable a décidé d'interrompre en effet les transports de passagers par les airs ou par les voies maritimes d'ailleurs. Mais l'Europe n'a pas tardé à s'organiser et une réunion a eu lieu aujourd'hui dont on ne connaît pas encore les décisions. Mais vous savez, l'Europe, elle a fait de très grandes avancées depuis le mois de mars. Avant mars, en fait, il n'y avait pas de coordination dans le domaine de la santé. Bien sûr, la France a limité ses décisions. D'autres pays les ont prises pour plus longtemps. Mais nous serons très, très rapidement informés. Il faut avoir en tête que l'Union européenne, en fait, n'a pas de compétences dans le domaine de la santé. C'est l'émergence du virus qui a permis de faire de grands progrès en débattant, en discutant, en se rendant compte que les frontières nationales n'étaient pas forcément les bonnes barrières, que très régulièrement, des décisions communes ont été prises jusqu'au vaccin que nous avons pu acquérir ensemble de manière plus efficace que si chaque État membre l'avait fait tout seul.
Depuis plusieurs heures, il y a d'énormes embouteillages à Douvres, en Grande-Bretagne. Entre 2 et 3 000 camions sont bloqués. Le temps de tester tous les chauffeurs, là aussi, on sent un petit peu les mesures d'urgence. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons du premier confinement à ce niveau?
Alors, je crains que les files de camions côté anglais cumulent en fait à la fois les incertitudes liées au virus qui est apparu en Grande-Bretagne et aussi les anticipations d'un Brexit désordonné. Cela peut conduire des transporteurs, des entreprises à anticiper des flux qu'ils pensaient pouvoir réaliser de manière plus sereine. Donc, les échanges sont considérables entre le Royaume-Uni et l'Europe. C'est l'occasion de le visualiser, hein. Et l'absence de règles claires, aujourd'hui à la fois sanitaires et surtout en lien avec le Brexit, hein, la fin de l'appartenance du Royaume-Uni au marché unique, qui est prévu le 31 décembre, crée cette petite désorganisation, même si beaucoup d'acteurs économiques avaient anticipé.
Est-ce qu'un report du Brexit, de cette date fatidique du 31 décembre, est envisageable avec cette émergence d'une variante du coronavirus ?
Écoutez, à la date d'aujourd'hui, le report du Brexit n'est pas envisagé. Il sera applicable le 31 décembre à minuit. La question, c'est quelles sont les règles ? Est-ce que nous parvenons à un accord entre les 27 États membres qui restent dans l'Union et le Royaume-Uni, qui est un grand pays ami, un grand partenaire économique, un ami historique, un allié historique, ou est-ce qu'on aura une phase intermédiaire, un peu désordonnée, entre le moment où seules les règles de l'Organisation mondiale du commerce seraient applicables, hein, au 1er janvier, et le moment où un accord serait trouvé avec peut-être des étapes intermédiaires qui seraient définies. Mais comme disent les négociateurs, rien n'est acquis tant que tout n'est pas décidé. Donc « nothing is agreed until everything is agreed ». Donc, pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il en est, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les négociateurs poursuivent leurs discussions.
La campagne de vaccination européenne devrait commencer dès dimanche avec l'autorisation du vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech. L'Europe emboîte le pas aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à la Russie. Est-ce que la stratégie européenne est à la hauteur, selon vous ?
La stratégie européenne est puissante, puisque c'est plus de 2 milliards de doses de vaccins qui ont été négociées par la Commission européenne avec les grands laboratoires pharmaceutiques. On sait bien qu'ils sont, eux, des acteurs d'échelle mondiale. Donc, c'est cette capacité de négociation qui a été valorisée pour pouvoir négocier plusieurs types de vaccins avec des quantités considérables, dont la clé de répartition est fonction de la taille de la population des États membres, mais aussi de l'urgence à les traiter compte tenu de la gravité de la pandémie chez chacun. Donc, une gestion optimisée, responsable, une Europe de la santé désormais qui existe, qui fonctionne et qui, sur ce dossier-là, a été particulièrement pertinente.
Merci Fabienne Keller. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe centriste Renew Europe. En France, le Covid s'invite plus que jamais aux fêtes de fin d'année. Et parmi ses voisins européens qui serrent la vis en reconfinant comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la France garde son cap, couvre-feu et réveillon autorisé pour Noël. Alors est-ce bien raisonnable ? On peut se le permettre, estime Benjamin Davidot, infectiologue et directeur médical de crise du Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine. Selon lui, il faut même sortir de cette logique confinement-déconfinement et réfléchir à plus long terme.
On a une longueur d'avance parce qu'on a commencé finalement à prendre des décisions pour une fois par anticipation plutôt que les autres. Il ne faut pas perdre cette longueur d'avance. Mais en même temps, je crois que le calendrier qui a été donné aux Français fait que chacun a pris ses dispositions et qu'aujourd'hui, s'il y avait une contre-mesure et un contre-ordre de ce qui a été décidé il y a quelques semaines déjà, ces décisions seraient complètement inaudibles et mal appliquées et on serait plutôt dans quelque chose de coercitif que quelque chose d'incitatif. Et encore une fois, tant bien même on dirait qu'on nous allons confiner entre le 25 et le 31, la problématique, à mon avis, va beaucoup plus loin. C'est qu'est-ce qu'on fait en ce début d'année et qu'est-ce qu'on fait pour cet hiver ? Il y aura d'autres moments où il y aura des brassages de population, il y aura d'autres vacances l'année prochaine, il y aura d'autres événements, il y aura la galette des rois, il y aura les vacances de Pâques. Et donc, encore une fois, c'est un changement des mentalités et de la perception de la transmission de ce virus sur la durée qui nous permettra d'être efficace plutôt que cette technique du stop and go qui consiste à, lorsqu'on est dos au mur, prendre des mesures de toute urgence pour éviter la saturation de l'hôpital. Je crois qu'il faut désormais anticiper. On n'a plus de raison de dire qu'on ne sait pas. Le virus, il est là durablement. Et la meilleure façon, à mon avis, c'est de le doubler par la droite et que chacun prennent ses responsabilités face à cette épidémie.
Benjamin Davidot, joint par Bénédicte Robin. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris ouvre une enquête pour incitation à la haine raciale après les tweets antisémites qui ont visé Miss Provence ce week-end. Lors de l'élection de Miss France samedi soir, la désormais première dauphine April Benayoum avait évoqué son père d'origine israélienne, provoquant une vague de commentaires antisémites sur Twitter. Le gouvernement, de son côté, appelle le réseau social à prendre ses responsabilités et supprimer les messages en question. Et pendant qu'une grande partie du monde se débat avec une pandémie, la Centrafrique fait face à de sérieuses menaces sécuritaires depuis plusieurs jours. Des groupes armés ont attaqué des axes routiers vendredi et se rapprochent de la capitale. L'armée centrafricaine sur place est fragile, mais des pays alliés s'organisent à 6 jours maintenant des élections présidentielles et législatives. Le gouvernement centrafricain affirme avoir reçu l'aide du Rwanda et de la Russie. Mais Moscou dément. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères affirme que la Russie n'envoie pas de troupes et respecte toutes les exigences des résolutions de l'ONU. Moscou, ou plutôt le FSB, qui parle de falsification à propos d'une conversation enregistrée par l'opposant russe Alexei Navalny. Alexei Navalny, qui, souvenez-vous, avait été empoisonné cet été en Sibérie, il aurait piégé un membre du FSB en lui faisant raconter comment les services de renseignement russes ont voulu l'empoisonner. C'est le site d'investigation Bellingcat qui rend public l'enregistrement. Alexei Navalny s'est fait passer pour un expert des armes chimiques travaillant pour le compte des renseignements russes. Les explications de Valérie Krova.
Cet appel de 49 minutes a été passé le 14 décembre au matin. Navalny se présente comme un assistant du secrétaire du Conseil de sécurité russe, proche de Vladimir Poutine. D'abord méfiant, son interlocuteur finit par se livrer. Et il fournit un compte-rendu détaillé de la tentative d'assassinat de Navalny et des opérations de nettoyage qui s'en sont suivies. Le principal aveu fait au cours de cette longue conversation est que le FSB est bien à l'origine de l'empoisonnement contre Navalny, ce que Vladimir Poutine a encore démenti récemment. On y apprend aussi que le projet d'assassinat était un projet de longue haleine et non une tentative ponctuelle. L'officier du FSB explique qu'il a été chargé d'éliminer toute trace de poison sur les vêtements de Navalny, vêtements restés à l'hôpital d'Omsk avant qu'il ne soit transféré par avion à Berlin. L'agent du FSB affirme enfin que le poison a été mis sur le sous-vêtement de l'opposant qui a eu la vie sauve grâce au pilote de l'avion à bord duquel il a fait son malaise.
Valérie Krova. La Syrie entre dans sa 10e année de guerre civile. Des millions de Syriens vivent toujours loin de chez eux, déplacés dans leur pays ou réfugiés à l'étranger. Les pays limitrophes, la Turquie, la Jordanie, l'Irak ou le Liban, sont ceux qui en accueillent le plus, près de 5 millions. La plupart sont de confession musulmane, mais le Liban accueille aussi des réfugiés chrétiens. Ils célèbrent Noël comme ils le peuvent dans un pays frappé par la pire crise économique de son histoire. Le reportage à Beyrouth d'Aurélien Colli.
Ils vivent assises dans 20 mètres carrés. La famille d'Elan, réfugiée d'Alep en 2015. Il y a Naja, la grand-mère, Dalia et Joseph, les parents, et Marc, Michael et Nancy, leurs 3 enfants. Au Liban, c'est très difficile, on est sous pression, on est les uns sur les autres dans l'appartement, et pour Noël, on célèbre seul, on va juste à la messe, on prie et on revient, explique Dalia, nostalgique de la maison familiale en Syrie et des Noëls bien entourés. Mon oncle venait en Père Noël, il distribuait les cadeaux, raconte Nancy, sa fille aînée de 15 ans. Mais aujourd'hui, les oncles, les cousins, les amis, chacun est dans un pays différent. En Suède, en Allemagne, au Canada, on ne peut plus être tous ensemble, poursuit l'adolescente, en détaillant des souvenirs de réveillons et de plats traditionnels. Au Liban, les Noëls sont beaucoup plus sobres, surtout avec la crise économique qui frappe depuis un an. Un sapin, certes, mais juste quelques plats et peut-être quelques cadeaux, car la famille d'Elan s'en sort à peine avec de l'aide humanitaire et un peu de travail quand il y en a. J'ai quitté la Syrie pour mes enfants, je fais tout ce que je peux pour qu'ils ne sentent pas qu'on manque, explique Dalia, qui était professeure d'anglais en Syrie et qui sert désormais le café aux cérémonies funéraires libanaises. Les enfants adorent les voitures télécommandées, mais c'est fonction du boulot, des moyens. J'essaye de ramener au moins un cadeau qui fait plaisir, ajoute son mari Joseph, électricien et musicien par passion. On ne retrouvera jamais la Syrie d'avant. 10 ans de guerre ont tout détruit, regrette encore Dalia. Le couple rêve maintenant d'une nouvelle vie en Australie et leur fille aînée Nancy de devenir juge pour aider ceux qui sont victimes d'injustice.
Aurélien Colli. Demain matin, il pleut sur les régions du nord et de l'ouest. Ce sera plus calme sur la moitié sud avec de belles éclaircies. À noter de la douceur pour les températures. Il fera au réveil de 10 à 13 degrés sur le quart nord-ouest, 4 à 9 degrés ailleurs. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy. Marie-Claire Roumabadi était à la technique.